Vous savez qu'un des problèmes quand on lit des histoires de la Bible aux enfants, par exemple, c'est de communiquer qu'il ne s'agit pas simplement d'un rassemblement d'histoires sympas. Demander aux enfants de dire quelle histoire de la Bible ils connaissent, j'imagine qu'ils ne répondent pas en expliquant les liens entre tout ce qui s'est passé dans le jardin et puis l'appel de Dieu à Abraham. Non, ils ont leurs histoires préférées tirées d'ici et là. Sans trop, ça dépend des enfants, mais sans trop comprendre le fil rouge qui passe à travers la parole. Et peut-être que nous lisons la Bible comme ça aussi. C'est simplement des histoires que nous aimons. Nous avons tous nos passages, nos versets, les parties de la Bible préférées. Mais nous ne voyons pas la progression dans la révélation. Nous ne voyons pas la progression dans l'histoire de la parole. Nous oublions le fil rouge de la Bible, l'histoire qui se déroule du début jusqu'à la fin. Et cette histoire est bien, bel et bien là. Et quand nous lisons un passage ou un livre de la Bible, nous devons nous poser la question, quelle place ce passage a-t-il dans notre compréhension du fil rouge, dans l'histoire globale de la Bible? Comment est-ce que ce passage nous éclaire sur l'histoire entière de la Bible? Quel est le lien entre ce passage et ce qui précède? Quel est le lien entre ce passage et ce qui suit? Nous devons chercher des liens. Ce n'est pas simplement que Dieu a choisi de manière un peu sans organisation, sans réfléchir. Oh, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais mettre... Non. Il y a un sens dans l'ordre des passages de la Bible. Vous savez que le fil rouge de la Bible, c'est l'histoire du plan de rédemption de Dieu. Vous connaissez très bien, Dieu, il crée un monde parfait. L'homme se rebelle contre Dieu, mais au lieu d'effacer l'homme de la surface de la terre, au lieu de juger, de condamner, de le bannir complètement de sa présence éternellement, Dieu met en action son plan de rédemption. Nous avons vu ça la semaine dernière. Dans le jardin, même avant d'annoncer son jugement sur le péché, Dieu annonce qu'il va envoyer quelqu'un pour détruire le mal, pour vaincre le mal. Et ça, c'est la première annonce, on l'a vu, de son plan de rédemption de la création. Il va restaurer un lieu parfait, une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Au lieu de maudire sa création, et Dieu aurait pu très facilement le faire, Dieu choisit son plan et de la bénir, de la restaurer. Et comme on a vu dimanche dernier, il annonce ce plan petit à petit, en commençant par l'annonce faite dans le jardin d'Éden. Il annonce la venue d'un rédempteur, d'un sauveur, un descendant de la femme, quelqu'un qui va détruire le mal, détruire Satan et restaurer cette relation entre l'homme et Dieu, restaurer cette création déchue. Et c'était la promesse faite dans le jardin, et suite à cette promesse, nous commençons à chercher le Rédempteur. Adam et Ève, ils ont deux fils, il y en a un qui est pieux, il y en a un qui obéit, qui a de la foi. Est-ce lui le Rédempteur? Est-ce lui le Sauveur? Ben non, parce qu'il est tué par son frère jaloux, son frère qui ne croit pas. Alors Dieu, est-ce qu'il est obligé d'abandonner son plan? Il dit, ah mince, parce que là j'avais mon plan, mais Caïn, il a tout gâché. Non, parce que Dieu avait son plan de donner à Adam et à Ève un troisième fils. Et c'est ce troisième fils, Seth, que Dieu choisit, il choisit sa famille pour continuer son plan. Et vous avez sans doute remarqué qu'à maintes reprises dans le livre de Genèse, nous avons cette phrase « Voici la postérité d'eux ». Et c'est pour démarquer un nouveau chapitre, une nouvelle étape dans la révélation de Dieu dans son plan de rédemption. Donc, au chapitre 5 de Genèse, si vous prenez le temps aujourd'hui de lire ça, vous verrez la ligne, la postérité de Seth qui va jusqu'à Noé, dixième personne mentionnée dans la postérité de Seth. Et les parents de Noé ont cru que c'était lui qui allait racheter, qui allait sauver l'humanité. Ils ont dit en Genèse 5, 29, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. » Alors, est-ce vrai que Dieu choisit de sauver l'humanité par la ligne de Noé? Est-ce Noé le Rédempteur? Parce que c'est bel et bien la famille de Noé qui est sauvée, qui Dieu recommence après le déluge avec la famille de Noé, mais ce n'est pas Noé le Rédempteur. Quelques versets après être sorti de l'arche, Noé s'enivre et s'allonge nu sur son lit. Ce n'est pas Noé le Rédempteur. Mais Noé, il bénit son fils Sem et sa descendance. Alors là, au chapitre 10 de Genèse, on a la liste des trois fils de Noé et le chapitre finit avec la famille de Sem, les Sémites. Et au chapitre 11, la caméra de Dieu, si vous voulez, s'arrête encore une fois sur la famille de Sem et on a une nouvelle généalogie, une nouvelle postérité. Dieu avait choisi d'agir dans la famille de Sem, et cette fois, le dernier nom dans la liste, si vous regardez à partir du verset 10, voici la postérité de Sem, et cela nous amène jusqu'à Abraham. Donc vous voyez ce que Dieu est en train de faire. De toute l'humanité, la caméra se focalise sur un seul homme. Comme si Dieu était en train de dire, je suis en train d'accomplir ma promesse et voici l'homme par qui je vais le faire. Dieu, de toutes les personnes sur la terre, Dieu œuvre dans la vie d'un seul homme, Abraham. Et ce matin, au début de notre étude sur la vie d'Abraham, je veux examiner avec vous le monde dans lequel Dieu œuvre. Je ne dis pas le monde dans lequel Abraham vivait, parce que je ne veux pas que Abraham soit au centre de nos pensées, de notre méditation. Je veux voir ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham. J'appelle ces prédications « La vie d'Abraham », mais un meilleur titre serait « L'œuvre de Dieu dans la vie d'Abraham ». Nous voulons voir le Dieu d'Abraham. Je pense que la dernière fois, s'il pouvait nous parler, la dernière fois qu'Abraham souhaiterait, c'est qu'on quitte cette salle chaque dimanche en disant « Ah, qu'est-ce qu'il est bien, Abraham ?» Il veut qu'on dise « Qu'est-ce qu'il est glorieux, ce Dieu d'Abraham ? Qu'est-ce qu'il est digne de notre louange, de notre adoration ?» Donc ce matin, j'ai appelé ma prédication « Le monde dans lequel Dieu œuvre ». Le monde dans lequel Dieu œuvre, le Dieu est à l'œuvre. Et la première chose que nous voyons dans ce chapitre 11, c'est que c'est un monde impressionnant. Le chapitre 11 de Genèse nous dit pas mal de choses sur le monde à l'époque d'Abraham. Les versets 1 à 9, on ne va pas les méditer ce matin, j'ai déjà prêché là-dessus, nous explique que c'était un monde bien avancé technologiquement, un monde bien avancé dans le domaine de la construction. Il ne faut pas penser que, et on a tendance à le faire, il ne faut pas penser que puisque c'était il y a des siècles et des siècles, c'était des sauvages qui vivaient dans les cavernes. Ce n'est pas ça. Ils étaient bien avancés dans la construction et dans la technologie. Ils avaient développé, nous le voyons, c'est au verset 3, ils avaient développé la production de briques et de bitume et ils étaient suffisamment doués en construction et en architecture pour pouvoir construire une ville avec une énorme tour. Magnifique, cette tour. Et la ville d'Ur où habitait Abraham était aussi une ville impressionnante. avec des monuments remarquables. Vous pouvez chercher sur Internet pour voir ce qu'ont trouvé les fouilles archéologiques. Ils ont révélé, ces fouilles ont révélé une culture florissante, une culture d'art, de musique. Il y a des temples, des tombes royales, des objets de luxe qui témoignent d'une grande maîtrise des artisans de l'époque. Ce ne sont pas des sauvages. Ils étaient très avancés sur les plans militaires et économiques. Et tout ça en quelques ans après le déluge. Il y a à Ur et dans toute la région une civilisation bien florissante et bien avancée. Donc c'est un monde impressionnant, mais c'est également un monde rebelle. Et c'était un monde qui voulait vivre indépendamment de Dieu. N'oubliez pas que Genèse 11 décrit le monde seulement quelques générations après le déluge. Et c'était quoi le déluge ? C'était l'énorme manifestation de la sainteté de Dieu, du jugement de Dieu, de la colère de Dieu contre le péché. Noé et ses fils avaient vu de façon terrible le jugement de Dieu contre le péché et la rébellion humaine. Il n'y avait plus aucun doute dans l'esprit des êtres humains. Dieu est le péché. Ça, c'était gravé dans l'esprit humain. Se rebeller contre Dieu, c'est grave. Vivre sans Dieu, c'est grave. Vivre indépendamment de Dieu, c'est grave. Et là, peu de générations après, que fait le monde ? Il essaie de vivre sans Dieu. Il essaie de vivre indépendamment de Dieu. Il a tout oublié en quelques générations. L'humanité se rebelle. Par exemple, contre le commandement de Dieu de se répandre sur la terre. Dieu avait dit qu'il fallait se répandre sur la terre. Mais au verset 4 du chapitre 11, que dit le peuple ? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés, comme Dieu a dit. Afin que nous puissions désobéir à ce que Dieu a dit. Nous voulons faire comme nous le jugeons bon. Noé est sorti de l'arche avec sa famille. C'était quoi la première chose que Noé a faite avec sa famille ? Ils ont offert un culte à Dieu, le seul vrai Dieu. Donc, c'est 8 personnes, les seules personnes sur la planète en train d'adorer le vrai Dieu. Et quelques générations plus tard, il y a des idoles partout. C'était un monde idolâtre. Dieu est oublié. Des temples sont construits. On avait un à Ur, un temple pour le dieu de la lune. Un temple magnifique. Et la famille d'Abraham est une famille dévouée au culte des faux dieux. C'était une famille idolâtre. Nous avons vu ça dans Josué 24, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham, le père et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Juste quelques générations après le moment où tous les habitants de la terre adoraient et offraient un culte au vrai Dieu. Et même les prénoms de la famille d'Abraham révèle un arrière-plan païen. Terach vient du nom pour la lune, le nom de la reine, du dieu de la lune, c'était l'équivalent de Sarai. Donc même dans les prénoms de la famille d'Abraham, on voit que c'était une famille donnée au culte des faux dieux. Donc le monde d'Abraham était un monde impressionnant, mais c'était un monde rebelle. Et on pourrait dire, n'est-ce pas, la même chose de notre monde à nous. C'est un monde où la technologie et l'industrie continuent à progresser, à avancer de façon hallucinante. Le monde de l'art et de la culture est divers et varié. La plupart des gens semblent se débrouiller sans Dieu. Ils construisent leur ville, leur maison, leur tour. pour la plupart, Dieu est exclu. Il y a des faux dieux partout. Les dieux des fausses religions, mais surtout les idoles du cœur. Les idoles devant lesquelles les uns et les autres se prosternent. Robin en a mentionné au début dans sa prière que nous tous, nous fabriquons et nous nous prosternons devant des idoles. Et je vous encourage à lire, on en a parlé par le passé, c'est un excellent livre de Tim Keller sur les idoles du cœur. C'est vraiment, si vous pensez comprendre votre propre cœur, lisez ce livre et vous verrez, ah ben là, il y a des choses dans mon cœur que j'ignorais complètement. Notre capacité de mettre d'autres choses à la place de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Lisez ce livre, il est excellent. Mais nous vivons dans un monde qui veut nous faire croire que tout se passe bien sans Dieu. Mais ne soyons pas trompés par les apparences. Et ça nous amène à notre prochaine partie de la prédication. Un monde impressionnant, un monde rebelle, mais un monde en souffrance. Alors, pour montrer ça, il faut revenir à notre texte. Parce que nous trouvons dedans des indices qui révèlent que tout ne se passe pas bien pour l'humanité. Tout ne va pas bien dans le monde qui essaie de vivre sans Dieu. Alors, comment est-ce que nous le savons? Si vous examinez de près le texte, vous verrez que c'est un monde de souffrance, un monde de douleur, un monde de frustration. Vous avez remarqué dans la liste des descendants de Sem que les gens meurent de plus en plus jeunes. Lisez les listes qui viennent plus tôt dans le livre de Genèse, ils vivent 800, 900 ans, mais ils vivent plus à ces âges-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, on voit de moins en moins de jeunes qui vivent des centaines d'années. Avant, c'était possible parce que les effets du péché dans le monde étaient assez limités. Les théologiens nous disent que le code génétique était en train de se corrompre avec le temps. Et les êtres humains devenaient de plus en plus vulnérables aux maladies et à la mort. Et cela provoque cette chute de l'espérance de vie. Et voilà pourquoi ils meurent plus jeunes. Donc nous voyons les effets du péché dans ce monde. Et avez-vous vu au verset 28, est-ce que vous avez remarqué au verset 28? Et Haran mourut en présence de Terach, son père. C'est la première et la seule occasion jusqu'ici où un enfant meurt de cause naturelle avant son père. Terach n'est pas le premier père dans la Bible de perdre son fils. Il y a Adam qui a perdu Abel. Mais ça, c'était puisque son frère l'avait tué. Mais là, au verset 28, il y a la tragédie de la mort d'un fils pendant qu'il est encore relativement jeune, pendant que son père est encore en vie. Et nous savons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant meure. Ça arrive. Mais ce n'est pas normal qu'un enfant meure avant ses parents. Et le passage ne dit pas que sa mort était liée directement à un péché quelconque. On ne peut pas dire ça. Mais on peut dire que la mort d'un jeune homme avant son père est une des conséquences de la chute, de l'entrée du péché et des conséquences du péché dans ce monde. Cette mort nous rappelle le côté précaire de la vie humaine. Malgré toute sa réussite, tous les grands exploits, la vie de l'homme est éphémère et fragile. Comme le prophète Ésaïe nous rappelle, le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe. Le psaume 144, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ça, c'est vrai dans le monde d'Abraham, avec un homme qui meurt jeune. Et Dieu est à l'œuvre dans un monde touché par la mort, la tristesse et la souffrance. Un monde où la vie est éphémère. Dieu est à l'œuvre. Et ça vaut la peine, je pense, de noter que Le texte nous dit que Haran est mort dans le pays de sa naissance. Il est mort un idolâtre. Et il n'a pas quitté Ur avec Abraham. Il est mort là, dans son péché. C'est un avertissement pour ceux qui sont dans le péché et qui savent qu'ils sont dans le péché, que vous ne savez pas à quel moment la mort va frapper. Et la dernière chose que vous voulez, c'est de mourir dans le même état où vous êtes né, dans votre péché. C'est la dernière chose que vous voulez. Et aussi frappant que la mort de Haran, c'est la stérilité de Sarai. Vous avez sans doute vu ça au verset 30. Sarai était stérile. Et puis au cas où on ne l'a pas bien vu, l'auteur le répète, elle n'avait point d'enfant. Voici une jeune femme, mariée avec tous ses rêves de fonder une famille, entourée des proches avec leurs enfants, mais elle est stérile. Et au milieu d'un chapitre qui parle des gens avec les enfants qui naissent, voilà un vrai coup de marteau. Un coup très dur. Et encore une fois, c'est la première fois que nous rencontrons ça dans la Bible. Dieu avait béni la race humaine en disant « Soyez féconds et multipliez. » Mais Sarai semble être exclue de cette bénédiction. Et nous pouvons imaginer sa souffrance en voyant naître tous les enfants autour d'elle. Sarai n'avait point d'enfants, le texte dit. Donc d'un côté, c'est un monde en plein essor, un monde fier de ses exploits, mais de l'autre côté, c'est un monde marqué par la mort, la souffrance, la douleur, la déception, la frustration, la fragilité, l'incapacité humaine. Voilà des vies prospères, mais voilà des vies profondément touchées par le péché, par la déception liée au péché. Et n'est-ce pas, encore une fois, une description de notre propre monde. Derrière toute la réussite, derrière la façade, quand on va au-delà des apparences, on trouve un monde en souffrance. Un monde de déception, de désespoir. On voit la fragilité de l'être humain. Ça n'a pas changé depuis le temps d'Abraham, malgré tout le progrès. On connaît les mêmes souffrances, les mêmes frustrations, le même désespoir. Et voilà ce que je vous soulignais aujourd'hui, parce que c'est là où cette vérité sur Dieu, où on a vraiment besoin de ça. Parce que c'est exactement dans ce monde, malgré tout, que Dieu est à l'œuvre. Dieu intervient dans un monde païen, dans un monde de souffrance, dans une famille idolâtre, parmi les gens qui connaissent la souffrance et le désespoir. Et Dieu agit là pour accomplir son plan de rédemption. Il n'attend pas que les choses soient parfaites, que le monde soit parfait. Voilà le monde dans lequel Dieu est à l'œuvre pour apporter son salut. Dans les circonstances les plus inattendues et les plus improbables, Dieu touche des vies et des cœurs. Même si sa présence n'est pas reconnue, et même si son œuvre n'est pas évidente, Dieu est en train d'accomplir sa volonté et son plan. Dieu est à l'œuvre. Et comment est-il à l'œuvre? De quelle façon? De façon spectaculaire? Non. Dieu choisit un homme parmi des milliers d'hommes, un homme qui ne cherchait même pas Dieu. Et Dieu œuvre dans cet homme, dans la vie de cet homme. Voilà comment Dieu agit. Et Dieu parle à cet individu. Il appelle cet individu peu connu. Et il lui permet de l'entendre, de comprendre et de croire. Dieu prend cet homme par la main et il se sert de cet homme pour accomplir son projet. Il dit à cet homme, je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Imaginez ça. À Abraham, à qui? Alors, on connaît très bien Abraham à cette époque-là. Personne ne le connaissait. Mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu était à l'œuvre. Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe en Ésaïe 51, « Car lui seul, je l'ai appelé. Seul. Je l'ai béni et multiplié. » Dieu appelle un homme seul, un inconnu, un païen. Et en faisant cela, Dieu a complètement changé l'histoire de l'humanité. Il n'a pas sonné la trompette en appelant Abraham. Ça n'a pas fait la une des journaux. Mais par le biais de l'œuvre de Dieu en cet homme, le monde entier est changé pour toujours. Dieu œuvre comme ça. Quelques 2000 ans plus tard, dans un monde aussi avancé culturellement, industriellement, un monde aussi païen, aussi rebelle contre Dieu, un monde de désespoir et de souffrance, Dieu est venu à une jeune femme, inconnue, dans une ville dont personne ne parle, une ville sans aucune importance, une ville de Nazareth. Et Dieu vient à une jeune femme, non pas une femme stérile, mais une vierge. Et Dieu, dans sa grâce souveraine, il touche la vie de cette jeune femme, Marie. Et par son œuvre en elle, Dieu a œuvré pour continuer à accomplir son plan de rédemption par cette jeune vierge. Par un miracle du Saint-Esprit, cette fille tombe enceinte et elle enfante un bébé qui est né dans le lieu le plus inattendu, une étable. Et ce bébé né dans l'obscurité était l'accomplissement de toutes les promesses faites à Abraham, toutes les promesses faites à Adam dans le jardin, toutes les promesses faites par les prophètes. Et Dieu était à l'œuvre dans un monde impressionnant, mais rebelle et souffrant. Et en même temps, Dieu était en train d'œuvrer dans des foyers de Galilée, chez des hommes pêcheurs. Il était en train de les préparer. Il était en train d'œuvrer dans une famille juive à Tarse. Il était en train de préparer, pas à la lumière du monde, pas aux yeux du monde, mais tranquillement, en silence, pour préparer le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu. Dieu était à l'œuvre. Et suprêmement, sur une colline à Jérusalem, un lieu de sang, un lieu de mort, un lieu de souffrance, par la mort d'un charpentier de Nazareth, inconnu par l'écrasante majorité de la terre, Dieu était à l'œuvre pour accomplir son dessein éternel, son plan de rédemption. Voilà le monde. Voilà les circonstances dans lesquelles Dieu œuvre. Voilà le Dieu qui œuvre. Et chers amis, nous sommes la preuve que Dieu continue à œuvrer d'exactement la même façon. Nous avons déjà vu que notre monde n'est pas si différent de celui d'Abraham. C'est un monde fier de ses exploits, un monde de rébellion, un monde de désespoir, un monde de déception, un monde d'idolâtrie. Mais ce qui est d'une importance cruciale, c'est que c'est un monde dans lequel Dieu est encore en train d'œuvrer. Dieu continue à toucher les vies des gens peu connus, comme vous et moi. Dieu continue à œuvrer malgré les obstacles, comme la stérilité de Sarah, comme notre incapacité de donner vie à nous-mêmes. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Il continue à appeler des gens de leur idolâtrie. C'est ce qu'il a fait pour vous, n'est-ce pas? Il est à l'œuvre dans les lieux et les circonstances peu prometteurs pour transformer la vie des gens par l'évangile de son fils Jésus-Christ. Nous avons entendu il y a quelques semaines des histoires des vies au Tchad, dans des villages. Vous connaissez beaucoup de villages au Tchad? Vous connaissez les noms de beaucoup de villages? Vous lisez, vous voyez des reportages à la télé? Non. Mais là, Dieu est à l'œuvre. Vous avez vu comment le Dieu de l'univers touche la vie des gens dans les tout petits villages au Tchad? C'est ce qu'il a fait pour Abraham. Il touche des vies des gens au Pérou, par le biais de notre sœur Juana. Il a touché sa vie. Au Nigeria, au Portugal, en Californie, en Irlande, en France, à Nantes, dans la rue de Rennes. Chez nos voisins, Dieu est en train d'œuvrer. De façon calme, inaperçue, dans les gens dévoués à leur faux Dieu, il ouvre leurs yeux et touche leur cœur. Il est à l'œuvre dans la vie de nos enfants, quand nous leur lisons la parole, quand nous prions avec eux. Ce n'est pas spectaculaire. Les chaînes de télévision ne frappent pas à la porte. Oh, on aimerait bien faire un reportage sur ce que vous faites avec vos enfants quand vous priez. Non, le monde ne s'intéresse pas à ce que nous faisons. Mais Dieu est à l'œuvre. Quand nous prenons le temps de prier avec eux, de lire la parole avec eux. Dieu est toujours en train d'appeler ses élus, d'appeler ces gens qu'il va sauver. Et rien ne peut empêcher Dieu de faire son œuvre, de faire avancer son royaume. Je pense qu'on aurait regardé le monde d'Abraham et on aurait dit c'est désespérant. On a abandonné Dieu. Comment Dieu peut-il agir ici? Mais Dieu était à l'œuvre. Et peut-être que vous regardez le monde de la même façon. Vous regardez la France, vous regardez votre famille, vous regardez les gens pour qui vous priez. Pour vous, c'est désespérant. Mais non, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et ce passage nous dit que Dieu accomplira toujours son plan. Et quel mystère de penser que pour accomplir son plan, Dieu se sert même des gens comme vous et moi, comme il s'est servi des gens comme Abraham. Dieu se sert même des gens comme nous. Chers amis chrétiens, reconnaissez-vous l'énorme privilège d'être utilisé par Dieu pour accomplir ses œuvres. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de moi. Il pourrait envoyer des milliers d'anges pour ramener tous ses élus au salut. Mais il choisit de le faire par le biais des gens imparfaits, faibles, comme nous, comme Abraham. Il ne faut pas penser que Abraham c'était un super saint. Très tôt dans la vie, l'histoire d'Abraham, nous allons voir ses faiblesses. Et Dieu se sert des gens pour accomplir son magnifique plan de rédemption pour cette terre. Quand je prie pour vous, j'aime bien imaginer ce que Dieu pourrait faire. Il peut toucher la vie d'un voisin en haut, une voisine. Il peut toucher la vie de quelqu'un de l'autre bout du monde. Dieu peut se servir de vous pour accomplir sa volonté. Abraham nous rappelle le Dieu qui œuvre, le Dieu qui transforme, le Dieu qui sauve. Notre Dieu, notre Père. Rien n'est impossible pour lui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Dieu? Mettons notre confiance en ce Dieu qui est encore à l'œuvre. Amen. Amen.